Le risque, c'est que nombre d'électeurs, notamment ceux qui n'ont pas voté pour Jacques Chirac au premier tour, se disent que finalement le choix n'est pas si réjouissant et reste chez eux. Or, il faut le rappeler, non seulement l'abstention profite à Jean-Marie Le Pen, mais le vote blanc ou nul profite à Jean-Marie Le Pen. Donc, on peut penser que le taux de participation sera plus fort qu'au premier tour, on peut penser très largement que Jacques Chirac sera élu avec une majorité plus que confortable. Mon pronostic personnel, c'est aux alentours de 70-30. Mais encore une fois, si Jean-Marie Le Pen dépassait ce niveau-là, ce serait un bouleversement politique majeur. Jamais dans l'histoire de la France, l'extrême droite n'a rassemblé un tel score.
Ce niveau-là, c'est déjà une victoire personnelle pour lui.
Oui, ni même en Europe,
via 30%. Ni même en Europe, c'est le FPE de Jörg Haider qui arrive en première position avec aux alentours de 28% des voix lors des élections de 1999.
Bon, eh bien, on va en reparler très bientôt. Donc, je renvoie à vos ouvrages respectifs, donc le Métron. Hein, le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français, dont vous êtes le maître d'œuvre, Claude Pendier.
Disponible notamment sous forme de CD-ROM.
De CD-ROM notamment, oui, parce que ça prend de la place, hein, le métro. Et puis, dans les nombreux livres publiés par Jean-Yves Camus, je signale donc la collection Les Anciennes Mille Langues, qui sont des petits livres de poche très pratiques et très bien faits. L'extrême droite aujourd'hui, et puis le Front National. Il y a eu d'autres livres récemment, dans d'autres collections de vous.
Ce sont les derniers, également les extrémismes en Europe aux éditions de l'Aube en 98.
Voilà. Et puis je signale que ce soir, il y aura au Bataclan à Paris, 50 boulevard Voltaire, à 20h30, un grand rassemblement public organisé par l'hebdomadaire Marianne à propos du Front National de Le Pen et sur la République. Il y aura François Bayrou, Max Gallo, Noël Mamère, Jean-Pierre Raffarin, Dominique Strauss-Kahn, Nicolas Baverez, Alain Finkielkraut, Bernard-Henri Lévy, Jean-François Kahn et Louis Plenel. Ça fait beaucoup de monde. Je ne sais pas s'ils pourront tous parler en même temps, mais on verra bien. Et puis, je vous signale également que vous pouvez, chers amis auditeurs, relancer vers le forum de franceculture.com si vous souhaitez vous exprimer, faire part de vos réflexions, analyses et interrogations. Un forum spécial présidentiel, donc franceculture.com. Vos messages seront publiés sur le site et repris dans les émissions de France Culture. Merci Claude Bentier et Jean-Yves Camus d'avoir participé à la première édition, une émission qui a été réalisée par Georges Kiosef. Demain, comme chaque jeudi, nous serons en public au Select 99 boulevard du Montparnasse, où vous êtes tous les bienvenus. On parlera du passé récent, du présent très présent et de l'avenir à court terme de la France avec deux historiens, René Raymond et Marc Ferraud. À demain. Un peu plus de 8h30 sur France Culture, l'heure des chemins de la connaissance, troisième volet de la série de Jacques Mounier sur le cours donné par le philosophe Gilles Deleuze en 1980 à Paris 8 et consacré à l'éthique de Spinoza. Aujourd'hui, l'esprit de paradoxe.
Le paradoxe est l'élément de la philosophie, une complexion de vrai et de faux qui provoque le trouble et l'étonnement favorable à l'entreprise de déconstruction des apparences. C'est dans le domaine éthique que cette entreprise va le plus loin chez Spinoza, car elle s'applique à la faculté de juger elle-même, au système du jugement auquel se ramène le plus souvent le discours philosophique. Gilles Deleuze, 2 décembre 1980.
Bon, qu'est-ce que ça veut dire ça? La philosophie serait et se confondrait avec la constitution d'un système du jugement. Ça a été peut-être pour le meilleur et pour le pire. C'est peut-être ça que ensuite certains philosophes ont essayé de secouer et d'y échapper à la philosophie comme système du jugement. Un jugement sans sanction, la philosophie, elle n'a jamais fait mal à personne. Mais c'est vrai que les philosophes, ils n'ont pas cessé de juger. Qu'est-ce qui les autorisait? Sans doute de ce que c'était eux qui avaient inventé le système de jugement, du jugement. Ils avaient fait du jugement un système. Pourquoi et comment? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Voilà, là je vous dis presque le fond parce que c'est des choses extrêmement simples. Mais je suis tellement mécontent, je suis tellement peu satisfait de ce qu'on dit généralement sur l'origine de la philosophie, y compris les hellénistes, les heideggeriens, etc., que j'essaie de me débrouiller là pour mon compte. Voilà ce que je voudrais dire. Il me semble que la philosophie, elle a toujours commencé en prenant une forme très curieuse qu'elle n'abandonnera jamais, à savoir le paradoxe. Le paradoxe. Le philosophe, c'est un type qui arrive en un sens et un bon à rien, c'est vrai, c'est imaginer dans la cité grecque, là, philosophe, il se balade sur la place publique, il est toujours prêt à causer. Oh. Ah bon, oh, dis où tu vas, Socrate qui commence, là, où tu vas? Oh. Qu'est-ce qui t'arrive? Et puis la conversation s'engage. Mais c'est pas n'importe quelle conversation, on appellera conversation philosophique celle où surgit le paradoxe qui désigne une certaine puissance. Certaine puissance ou une certaine impuissance. Et qu'est-ce que c'est le paradoxe au niveau le plus simple? Vraiment, là je dis des choses rudimentaires, je me demande pas ce que c'est que le paradoxe, je cherche un petit fil conducteur. Alors, je crois que le paradoxe au niveau le plus simple, ça consiste à vous dire... Il y a quelque chose qui est, et en même temps, vous ne pouvez pas le penser, débrouillez-vous avec ça. X est, et pourtant merveille, admirez ça. C'est impensable. En termes techniques, je dirais, le paradoxe, c'est une proposition qui consiste à poser l'impensabilité d'un étant. Oui, ce serait une bonne définition du paradoxe. Ça est, le philosophe dit pas, ça n'est pas. Il faut être là, là, les commentateurs sont vraiment lamentables. Je prends un exemple. Un exemple en apparence différent de ce dont je parle, mais c'est la même chose. Je prends un exemple, il y a un paradoxe fameux dans les premiers philosophes qui s'appellent philosophes. Bien plus, il est considéré comme l'inventeur de la dialectique, c'est Zénon. Il y a deux Zénons, hein. Il y a Zénon le stoïcien et Zénon d'Élée. Je parle de Zénon d'Élée, disciple de Parménide, celui qui disait « l'être est ». Voilà, donc le fondateur de l'ontologie. Zénon, il fait de fameux paradoxes qui concernent le mouvement. Et il explique que Achille, par exemple, ne peut pas rattraper la tortue. Il ne peut pas. Et il explique que la flèche ne peut pas atteindre la cible. On est compte, en d'autres termes, Zénon est un idiot. C'est ça, être un idiot. Il explique donc que la flèche ne peut pas attraper la cible, ne peut pas joindre la cible, ni Achille rattraper la tortue. Vous vous rappelez comment il fait pour l'expliquer ? Il divise le parcours d'Achille ou le parcours de la flèche en deux. La seconde moitié, il la divise en deux, etc., etc., à l'infini. Et il y aura toujours une distance, si petite qu'elle soit, entre la flèche et la cible. De même, Achille fait un bond et il couvre la moitié de sa distance, de sa différence avec la tortue, il faudra qu'il couvre encore la moitié de ce qui reste, la moitié du reste du reste, la moitié du reste du reste du reste, à l'infini, il ne rattrapera jamais la tortue. Voilà. Vous me direz, ah bon, c'est quand même Zénon a une forte culture mathématique grecque. C'est très intéressant. Très, très intéressant parce que ça fait intervenir ce que les Grecs avaient monté comme méthode d'exhaustion, c'est-à-dire d'analyse de l'infiniment petit. Bon, c'est moins pitrerie qu'il ne semblerait, mais en quoi c'est de la philosophie, ça? Vous comprenez, Zénon, il n'est pas idiot, Socrate non plus. Il est idiot d'une autre manière. Mais pas à la manière dont on penserait. Parce que il sait bien que les choses bougent. Il sait bien que Achille rattrape la tortue. Il sait bien que la flèche touche la cible. Il sait tout ça. De même, Socrate sait bien qu'il y a des méchants. Ça. Donc, s'ils veulent nous dire, c'est tout à fait autre chose. Le mal ou le mouvement sont des étangs. Seulement le problème, c'est comment penser le temps. Ce que Zénon tente de montrer, c'est que le mouvement en tant que mouvement est impensable. C'est pas que le mouvement en tant que mouvement n'est pas, comme le font dire beaucoup de commentateurs. C'est idiot, ça. C'est que le mouvement en tant que mouvement ne peut pas être pensé. Ce que Socrate veut montrer, c'est que le mal en tant que mal ne peut pas être pensé. Bon, alors là ça devient plus intéressant, c'est ça un paradoxe. Un paradoxe énonce l'impensabilité d'un être. Mais pourquoi est-ce que ça leur donne un plaisir intense, ces paradoxes? Ils sont ravis. Plus on leur dit, mais t'es débile de dire que ça, le mouvement n'existe pas, quoi, qu'est-ce que tu veux dire? Ils disent pas. Ils disent, oh, bon, comme tu veux, tu peux, toi, mais alors, comment tu te débrouilles de mon paradoxe D'où la réputation que les philosophes ont toujours eue d'être des bavards. C'est pas des bavards, c'est les hommes les plus silencieux du monde, puisqu'ils pensent que, finalement, à la limite, l'étant est fondamentalement impensable. Ça peut être consolant, parce que si l'étant est impensable, c'est peut-être parce que l'être est pensable, lui. Mais que penser l'être, c'est pas facile non plus. Mais que ce serait ça, la philosophie, alors bon... Mais peu importe. Voilà pourquoi ils disent ça. Pourquoi ils sont tellement contents. C'est pas, à première vue, c'est pas un triomphe pour la pensée. C'est pas une victoire pour la pensée. Loin de là. Elle peut pas penser le mouvement, elle peut pas penser le mal, elle peut rien penser. Qu'est-ce qu'elle peut penser alors la pensée? Elle va penser, l'être est Parménide. Seule la justice est juste. Les hommes justes, ils sont justes qu'en second. Ce qui est vraiment et totalement juste, c'est la justice. La justice est juste, on peut faire des litanies. La vertu est vertueuse. La sagesse est sage. C'est ce que Socrate fait dans une sorte, dans une série de dialogues éblouissants, mais qui exaspèrent tout le monde. On discute très longtemps pour arriver à la révélation « la justice est juste ». Et il n'y a que la justice qui soit juste. Il n'y a que l'être qui est. Bon. On a envie de dire, oh ben, il fallait quand même pas 40 pages pour ça, si, il fallait 40 pages. Parce que, enfin, les 40 pages, puisque, mais c'est inséparable de ceci, l'étant est impensable. Qu'est-ce qui est pensable? Qu'est-ce qui est pensable? La pure idéalité. L'idée. L'idée. Mais enfin, c'est pas tellement brillant. Pourquoi est-ce que les philosophes se réjouissent? Moins ils arrivent à penser l'étant, plus ils sont contents. Plus ils rigolent à leur manière. Ils embêtent tout le monde, tout ça, et puis ils expliquent qu'on peut rien penser, on peut pas penser le mouvement, on peut pas penser l'être, non, on peut pas penser le mal, on peut pas penser le devenir, on peut pas penser tout ce qui fait objet de paradoxe. Et j'arrive en disant, ben oui, on peut penser la justice est juste, l'être est, etc. L'un est un. Bon. Alors on dit, ben, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Comprenez? Ils accomplissent vraiment le destin de la philosophie dans son surgissement, il me semble originel, à savoir constituer un système du jugement. Il s'agit de juger tout ce qui est. Et la possibilité de juger tout ce qui est, c'est quoi? C'est, à la limite, s'élever à la position de quelque chose qui est au-delà de l'être. On jugera ce qui est et on jugera l'être lui-même en fonction de quelque chose qui est au-dessus de l'être. Bon, on retombe sur l'un au-dessus de l'être. En d'autres termes, l'idée de fond de toute cette philosophie, c'est seul le bien, avec un grand B, et c'est par là qu'elle a cette apparence optimiste. Seul le bien fait être et fait agir. Seul le bien fait être objectivement et fait agir subjectivement. Donc le bien est au-dessus de l'être. Le bien, c'est l'un. Dès lors, on peut juger tout ce qui est. Il s'agissait moins de décréter le mouvement, le devenir impensable, que de les soumettre au système du jugement, en fonction de critères qui, eux, ne deviennent pas, qui sont les critères du bien, qui ne sont pas en mouvement, etc., etc. Donc, le bien est à la fois raison d'être et raison d'agir. En latin, ça deviendra le bien comme ratio essendi et ratio agendi. Le mal n'est rien, forcément. Et c'est ça qu'ils veulent dire. Le mal n'est rien, forcément. Puisque seul le bien fait être et fait agir. Le bien est au-dessus de l'être. C'est la condition du système du jugement. Alors finalement, si vous voulez, ce n'est pas au nom d'un optimisme niais, c'est au nom d'une logique, d'un logos, poussé à l'extrême. La puissance du paradoxe, c'est le logos. C'est pas le philosophe qui est optimiste, c'est la logique qui l'est. Elle ne peut pas penser le mal, elle ne peut pas penser le mouvement, elle ne peut pas penser le devenir. C'est bien plus tard, que la logique va faire un mouvement considérable sur soi-même pour essayer de penser le mal, l'être et le mouvement. Et la réconciliation de... le mal, le mouvement, le devenir. Et la réconciliation du mal, du mouvement et du devenir avec la logique et avec la puissance de la logique marquera un tournant dans la philosophie. Il faudra la fermer, cette porte. Qu'est-ce que j'ai fait de ma main ? Quelle heure est-elle ? Midi et quart. Oui, ça marquera une date très importante. En gros, on peut dire que la réconciliation de la logique avec l'étant comme tel, avec le mal, le devenir, le mouvement, ce sera quoi ? Ce sera le grand romantisme allemand. Ce sera Hegel. À ce moment-là, la logique trouvera le moyen d'accorder un être au négatif. Il y a un être du négatif. Ce sera la réconciliation du logique, si vous voulez, et du tragique. Jusque-là, la logique avait été incurablement optimiste et au service du bien. Bon, voilà. Voilà ce que je voudrais dire, et je voudrais terminer vite parce que vous en avez assez, mais j'ai fait plus que ça, oui. Voilà ce que je voudrais dire. J'ai eu l'air d'abandonner complètement Spinoza. Le moment où jamais j'aurais dû revenir, c'est ceci, je vais vous dire. Comment il s'insère là-dedans ? J'ai l'air de faire une histoire de la philosophie qui s'en va par tous les bouts. Et c'est très curieux, parce que Spinoza, il ne cesse pas de nous dire, comme tout le monde à l'époque, le mal n'est rien. Il se sent. Tout le temps, il nous dit le mal n'est rien. objectivement et subjectivement. Objectivement parce que l'opposition se ramène à la privation et la privation se ramène à la simple négation. Et il n'y a pas d'être du négatif. Subjectivement parce que le méchant, c'est une erreur. La méchanceté, c'est une simple erreur. Le méchant, c'est quelqu'un qui se trompe. Donc il n'arrête pas de nous dire ça. Bien plus, le problème du mal, il le traite pour lui-même dans un texte passionnant dont j'ai parlé la dernière fois, à savoir son échange de lettres avec Blienberg, et qui porte uniquement sur la question du mal. Et pourtant, si vous voulez, alors, à première lecture, on se dit, ah ben oui, il dit ce que nous disait déjà, bien des siècles avant, Socrate, ce que les autres, ce que beaucoup d'autres ont dit, tout ça, c'est le système du jugement. C'est cette logique qui se refuse et qui ne peut pas, qui n'a pensé le mal. C'est le fameux paradoxe, là, du logos. Et puis, quand on lit en même temps qu'on lit, on a une toute autre impression en même temps. Ils sont chiants. On a une toute autre impression. C'est que Spinoza, sous des mots qui ont été mille fois dits, nous dit complètement autre chose. Tout à fait autre chose. Ah oui, qu'est-ce qu'il nous dit ? Voilà ce qu'il nous dit. Le mal n'est rien. Et jusque-là, ça va très bien. Jusque-là, ça peut être signé. C'est comme dans des pétitions, vous savez, vous pouvez signer la première phrase et puis vient la seconde phrase, ah là, je peux plus signer. Non. Non, ça peut pas aller. Eh bien, c'est la même chose dans l'histoire que je vous raconte. Le mal n'est rien. Je dis, ça renvoie à qui si on fait un concours, hein? Alors on répond, or, qui peut dire ça? Eh bien, Socrate, eh bien, Descartes, Leibniz, Spinoza. Bon, d'accord. À partir de là, la phrase bifurque. Le mal n'est rien, c'est une proposition qui n'est pas complète encore. Si on vous dit le mal n'est rien, il faut surtout être prudent, vous attendez, hein, vous attendez. Parce que la phrase n'est pas finie. Telle qu'elle, c'est un non-sens. Puisque le mal peut n'être rien pour les raisons les plus opposées. Alors, vous exigez une flèche, des flèches de bifurcation. Et les uns prennent la première bifurcation. Le mal n'est rien parce que seul le bien fait être et fait agir. Ça, c'est la voie, le bien, c'est-à-dire l'un au-dessus de l'être. Le bien fait être, c'est-à-dire l'être dérive du bien. L'un est plus que l'être. Ah. On va y retourner, hein, à la...
Ouais.
Alors, bon. Ça, parce que le mal n'est rien, parce que seul le bien est fait d'être, et raison d'être, et raison d'agir, ça c'est signé Platon. C'est signé Leibniz, qui bien plus lui renouvelle complètement la formule le bien fait être et fait agir, lui donne une interprétation très très curieuse, très belle. Mais enfin, est complètement dans cette première bifurcation. Et puis il y a un certain nombre de philosophes qui disent, bien sûr, le mal n'est rien. Vous voyez, je ne suis pas limitatif, parce qu'il y a en plus ceux qui disent, oui, le mal, si, le mal est quelque chose. Il y a un être du négatif. Donc il y a beaucoup de variété. Mais je m'intéresse à la seconde bifurcation. Une race de philosophes étranges nous disent quoi? Ils nous disent, oui, d'accord, le mal n'est rien. Ils ajoutent, très vite, pour pas trop se faire entendre, ils ajoutent, parce que le bien non plus. En d'autres termes, le mal n'est rien, bien sûr, puisqu'il n'y a ni bien ni mal. Oh, mais alors ça rebondit, qu'est-ce qu'ils veulent dire, ceux-là? C'est des fous complets, quoi, il n'y a pas de bien ni de mal. Alors quoi, assassiner les gens, on peut y aller. N'importe quoi, il n'y a pas de bien ni de mal. C'est l'égalité de l'être, quoi. Bon, d'accord, c'est l'égalité de l'être. Est-ce qu'on peut faire n'importe quoi? Ah non, qui disent, on ne peut pas faire n'importe quoi. Bah alors, on leur répond, tais-toi, ça revient au même. Non, ça ne revient pas au même. C'est pas les mêmes choses que moi je vais vous défendre et que les autres vous défendent. Ah, c'est pas les mêmes choses, ça devient plus intéressant. Mais défendre, pourquoi? Défendre, ça veut dire quoi? C'est le système du jugement. Ah d'accord, j'ai dit un mot de trop, c'est pas défendre qu'il faut dire. Alors c'est quoi? Ah, on va voir. On va voir, c'est un monde complètement différent. Le mal n'est rien puisqu'il n'y a ni bien ni mal. Donc Spinoza se sert, il est très sournois Spinoza, vous voyez, dans sa loyauté philosophique, dans sa grandeur, il est là. Il parle comme tout le monde pour dire quelque chose de complètement différent. Le mal n'est rien, oui, mais moi je suis l'homme qui vous annonce qu'il n'y a ni bien ni mal, et c'est pour ça que le mal n'est rien. Et là encore, longtemps après, ce sera repris par quelqu'un qui intitule un de ses livres principaux « Par-delà le bien et le mal ». Et celui qui intitule ce livre principal « Par-delà le bien et le mal » est si mal compris, tout comme Spinoza, qu'il éprouve le besoin d'écrire un autre livre principal, intitulé « La généalogie de la morale », où il montre que la morale est une chose, selon lui, immonde. Mais que, on a quand même mal compris son précédent livre « Par-delà le bien et le mal ». Et il lance cette formule qui pourrait, je vous jure, à la lettre, qui pourrait être signée Spinoza, qui répond à la lettre du spinozisme, qui est « Par-delà le bien et le mal, comprenez qu'il n'y ait ni bien ni mal, qu'il n'y ait pas plus de bien qu'il n'y a de mal, cela du moins ne veut pas dire par-delà le bon et le mauvais. Cela du moins ne veut pas dire par-delà le bon et le mauvais, c'est-à-dire d'accord, il n'y a ni bien ni mal, mais il y a du bon et du mauvais. Vous me direz si c'est pour dire ça. Donnez-moi le minimum toujours de confiance. Peut-être que c'est énorme comme différence. L'éthique. Il n'y a ni bien ni mal, mais il y a du bon et du mauvais. Voilà exactement la soudure entre l'éthique et l'ontologie. Il n'y a ni bien ni mal pour une raison simple, c'est que le bien n'est pas supérieur à l'être. Il n'y a que de l'être. Il n'y a que de l'être, bien et mal ne sont que des mots d'aimer de sens. Il n'y en a pas moins du bon et du mauvais, alors que la morale est l'art du bien et du mal, et de leur distinction, et de leur opposition, et du triomphe de l'un sur l'autre, l'éthique est l'art du bon et du mauvais, et de leur distinction dans la mesure où cette distinction ne recoupe pas celle du bien et du mal. Donc, l'éthique est directement branchée sur l'ontologie, bien plus, je dirais qu'elle l'accompagne tout le temps, mais elle en est le point de départ nécessaire. Ce début qui faisait qu'on ne pouvait pas s'installer immédiatement dans l'être, c'est que seul le débrouillage du bon et du mauvais peut nous porter jusqu'à l'être, le plus vite possible. L'éthique est la vitesse qui nous conduit le plus vite possible à l'ontologie, c'est-à-dire à la vie dans l'être.
L'esprit de paradoxe, le cours de Gilles Deleuze, cette semaine, l'éthique de Spinoza. Les chemins de la connaissance, Ludovic Asselot, Claude Giovanetti, Jacques Munier. Une bibliographie est à votre disposition sur le site franceculture.com.
Prochain rendez-vous avec Gilles Deleuze, mémorable tout à l'heure, 11h30. Vos magazines aujourd'hui sur France Culture, en seconde partie de la suite dans les idées, 12h45. Aujourd'hui, la gauche après le séisme. Dans Pot-au-feu, en question ce soir, précisément le 1er mai. Dans un instant, juste après le journal, ce sera le magazine de l'architecture métropolitain. France Culture, excellente journée. Le journal, vous est présenté par Olivier Doré.
Bonjour, Paris, place du Châtelet, 1er mai 2002, 9h, c'est-à-dire maintenant. Le Front National, dans quelques minutes, se mettra en marche pour son seul grand rassemblement dans les rues. À la tête du cortège, son leader, Jean-Marie Le Pen, qui espère toujours créer une nouvelle surprise le soir du 5 mai, quand les Français auront voté. Jean-François Achilly.
Jean-Marie Le Pen avancera seul avec sa femme Jeannie en tête de cortège. Ils seront suivis des jeunes frontistes, puis des représentants des dom-toms. Les membres du bureau politique qui l'accompagnaient tous les ans seront dispersés au sein des fédérations départementales auxquelles ils sont rattachés. Ainsi, Marine Le Pen, la FI, sera avec les militants du Pas-de-Calais. Le candidat va monter seul sur le podium dressé à l'Opéra pour y prononcer son discours. Ça ne sera pas un défilé partisan, explique Karl Lang. Nous voulons faire de ce 1er mai une fête familiale et patriotique, précise le secrétaire général du Front National. Pour assurer la sécurité du cortège, les 400 hommes du DPS, le département protection sécurité, service d'ordre du FN, seront déployés sur le terrain avec l'appoint de vigiles de sociétés privées. Les militants en rangers et crânes rasés ne sont pas les bienvenus, ils font trop mauvais genre. Tout comme les banderoles au message trop musclé, les seuls panneaux autorisés seront Le Pen président ou encore fier d'être français. Il n'y aura même plus de Jeanne d'Arc à cheval dans le cortège. Jean-Marie Le Pen veut gommer son image de chef de parti d'extrême droite au profit de celle de respectable candidat à la présidentielle.
Et des militants au crâne rasé, il y en avait eu le défilé du 1er mai 95. À ce moment-là, certains d'entre eux avaient jeté dans la Seine un jeune Marocain qui passait par là. Pour lui rendre hommage, le MRAP appelle à un rassemblement à 11h à proximité du pont du Carrousel. À ce moment-là, la manif du Front National ne sera pas terminée. C'est donc pour cette raison que les services de police et de gendarmerie seront très visibles et que le cortège du MRAP partira, lui, à l'opposé de celui de l'extrême droite. Des forces de l'ordre très présentes de toute façon dans toute la capitale, notamment parce qu'à partir de 15h cet après-midi, celles et ceux qui forment le front du refus se retrouveront place de la République. On attend là-bas 200 000 personnes. Toutes les organisations syndicales ou presque seront là, Hervé Gardette.
Il n'aura finalement pas manqué grand-chose pour que ce 1er mai réalise l'improbable union sacrée du mouvement syndical. Pas grand-chose, la CGC, qui fidèle à sa tradition, ne célèbre pas la fête du travail, et la CFTC, qui bien qu'ayant appelé à voter pour le président sortant, manifeste seule ce matin à Paris. Il y aura malgré tout quelques militants de ces deux confédérations dans le cortège cet après-midi. Cortège unitaire, mais au sein duquel les prises d'opposition ne se conjuguent pas à l'identique. Pour la CFDT, qui à l'origine n'avait pas prévu de manifester cette année pour cause d'entre-deux tours, les circonstances justifient une entorse à la règle. Nicole Notta a appelé il y a quelques jours à voter massivement en faveur de Jacques Chirac. Moins indirect, la CGT, l'UNSA, la FSU et le groupe des 10, dont fait partie Sud, ils exhortent leurs militants à faire barrage à Jean-Marie Le Pen. Et puis il y a le cas Force Ouvrière. Contrairement à l'an dernier, FO ne fait pas bande à part, mais pas question pour autant pour l'organisation de se fondre complètement dans la masse. Après avoir refusé la semaine dernière de signer une déclaration commune avec les autres confédérations du cortège, Force Ouvrière a choisi de défiler uniquement sous ses propres banderoles. Marc Blondel ne devrait donc pas être en tête de manifestation aux côtés, entre autres, de Nicole Notta et Bernard Thibault.
Ce front du refus sera aussi visible dans au moins 70 villes en France. Il y aura des manifestations à Lyon, à Marseille ou encore à Toulouse, où se trouvait hier le candidat Jacques Chirac. À la veille du 1er mai, le président sortant a plaidé pour une revalorisation du statut des salariés de PME. À propos des manifs, Chirac a redit qu'il fallait être vigilant. Enfin, aux électeurs de gauche qui s'apprêtent à voter pour lui dimanche, il a dit ne pas vouloir de blanc-seing. Il a même fustigé